Hiver 54, appel de l'abbé Pierre. Hiver 54, entrée en politique de Jacques Chirac. Hiver 2006, Jacques Chirac s'intéresse brusquement au SDF. Enfin, peut-être. Vive l'abbé Chirac. Anna Rennes.
Je viens d'entendre sur France Inter les infos de 13h, ce jour du mercredi 3 janvier. J'apprends que les chauffards meurtriers du gendarme ont enfin été identifiés. Mais quelle n'est pas ma stupeur d'entendre la correspondante nous préciser, comme à chaque fois que l'occasion s'en présente d'ailleurs, que ces voyous sont issus de la communauté des gens du voyage. Est-ce que cette précision était vraiment nécessaire ? Cela en fait-il un crime plus atroce ? Lorsque le criminel est juif, noir ou arabe, on se garde bien d'en faire la précision, de craindre d'être à juste titre taxé de raciste. Pas plus d'ailleurs que lorsqu'il s'agit d'un breton ou d'un provençal. Daniel, dis-moi quand cette stigmatisation va-t-elle enfin cesser ? Car cela, ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de propos sur le service public. J'aimerais que cette journaliste de France Inter soit pénalisée pour des insultes que moi, je trouve racistes. Merci Daniel. Au revoir.
Eh bien écoute, à Calais, j'ai voulu aller voir Sangatte, 2002, rasé. Et à Calais, 300 mètres du centre-ville, hein, des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des bébés, enfin bon. La société en marche, là, dehors, sous la pluie, moins 5, moins 2, ils dorment dehors, ils mangent comme des bêtes, on les laisse là, vraiment, c'est des belles vacances, bon, pour moi, ça va, je dors au chaud, mais eux, toute la nuit, dehors, à dormir sur des matelas, gorgés d'eau, sans couverture, ou à peine, voilà, et vraiment, je suis vraiment une citoyenne très, très en colère.
À toutes celles, à tous ceux à qui cette frénésie surconsommatrice annuelle a laissé comme un goût d'écœurement poisseux sur la conscience humaine, le collectif des déboulonneurs offre un remède joyeux contre les ballonnements néolibéraux. Dans leur lutte contre l'envahissement publicitaire, 7 déboulonneurs se sont fait inviter à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dégradé collectivement des panneaux publicitaires, comme si un panneau publicitaire pouvait être dégradé. Cette démarche, assumée au grand jour, a pour but de faire changer le cadre législatif de l'affichage publicitaire par une jurisprudence. Elle prendra tout son sens si une foule joyeuse et résolue se réunit le jour dit aux marches du palais de justice. La foule pour dire que ces 7-là portent les aspirations de 700, 7000 ou 7 millions. Le 12 janvier au matin, amenez vos espoirs d'une société en route vers l'humain, nous amènerons le café chaud. Retrouvons-nous à 9h devant le tribunal correctionnel de Paris, 4 boulevards du Palais, métro Cité. Pour plus d'infos, vous pouvez trouver le site www.desboulonneurs.org. Merci.
Ouais, salut à tous. L'opportunité pour vous souhaiter une bonne année autant à l'équipe qu'à l'ensemble des auditeurs et des gens qui travaillent à France Inter. Il y a quelques jours, j'avais laissé un message où je m'interrogeais sur le nombre de SDF. Depuis, donc, tu m'as apporté, et puis dans les médias est apparue l'information comme quoi ils étaient 100 000 SDF et que l'État y consacrait 3 millions d'euros. Donc, si je reviens sur mon raisonnement de départ, ça fait 30 euros par SDF et par jour que l'État consacre pour son hébergement. C'est-à-dire que l'État consacre 900 euros par mois pour chaque SDF pour son hébergement. Ben, vous m'excuserez, mais malgré tout, ça tient pas la route, quoi. Et on se rend compte, bien que ça soit pas du tout politiquement correct de dire ça à l'heure actuelle, on se rend compte que bien souvent, le travail des associations sur le terrain n'est pas de sortir le SDF de sa condition de SDF, mais quelque part de l'accompagner dans son parcours de manière à pouvoir justifier des emplois précaires qui sont faits dans le travail d'animation sociale sur le terrain. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à des associations pour s'occuper des SDF qui serait nécessaire si on donnait directement SDF, sauf que les SDF sont déstructurés et que peut-être cet argent servirait à acheter autre chose ou compenser, mais pas automatiquement dans une logique de recherche de logement. C'est un vaste problème et il suffit pas d'aligner des chiffres ou demander des subventions pour arriver à le résoudre. C'est un travail sur le terrain. Ciao vive, passez une bonne année parce que de toute façon au deuxième tour ça sera Ségolène Sarkozy ou Le Pen, donc de toute façon on va se faire chier en 2007. Ciao vive, portez-vous bien.
Communiqué de la Commission démocratique de l'armée de rébellion non violente. Le programme des idées présidentiables a été défini comme suit. Première idée. que la Banque Centrale Européenne finance par création monétaire toute activité socialement et écologiquement responsable. Deuxième idée, que la Banque Centrale Européenne finance par création monétaire toute activité socialement et écologiquement responsable. Troisième idée, que la Banque Centrale Européenne finance par création monétaire toute activité socialement et écologiquement responsable. Quatrième idée, que la Banque Centrale Européenne finance par création monétaire toute activité socialement et écologiquement responsable. Pour l'armistice économique et non violemment vôtre, sergent insurgé Michael, à nouveau.
Un nouveau et un marrant et un nouveau, c'est bien ça, ça fait plaisir. Des auditeurs qui essayent d'être rigolos, de nous égayer sans le divertissement qui fait pas diversion. On comprend à travers vos messages ce qui se passe en ce moment. Hein. Il y a une envie d'en découdre, il y a une envie de protester, de lutter, de contester cet ordre imposé, qui s'est imposé, ces inégalités, ces souffrances social, et évidemment que la perspective des élections exacerbe tout ça pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. On se souvient 1994 des émissions que nous avons. Oui, 1994, il y a 12 ans, c'est ça? À 13, bientôt 13 ans, rue du Dragon, le squat de la rue du Dragon, qui ressemble tout à fait à ce qui se passe actuellement. Il faudrait faire l'histoire du chemin parcouru depuis, qu'est-ce qui a été obtenu, et on en est là en ce moment à se dire, on a compris ce qu'est ce néolibéralisme, ses dégâts environnementaux, sociaux, etc. Et que faire? Comment lutter? Comment s'y prendre? Bien malin celui qui viendrait en disant « moi j'ai la solution ». Personne ne l'a véritablement, mais tout le monde en ce moment la cherche un peu partout. On comprend que tout ce discours, la doxa néolibérale commence à quand même à s'effriter, on voit au travers, là, ça commence à ne plus marcher. Mais quoi à la place, quoi d'autre? Et ça tâtonne, et ça discute, et ça cherche, et aujourd'hui, ben on va faire de l'action directe. Ah, action directe. Bouh, dites, oh là là, ça y est, ils ont décollé les amis de là-bas, si j'y suis. Oui, mais attention, action directe non violente. Ah, là, ça rattrape tout. Action directe non violente. Avec Guive et Anctil et Renaud Lambert, on va aller quelque part dans le Vercors où, on peut dire, s'entraînent des désobéissants. Des gens qui veulent désobéir, qui désobéissent déjà et qui organisent la désobéissance. Eh oui, la désobéissance civique ou civile, vous connaissez ces discussions sur ces deux mots, etc. On va aller avec eux et je crois qu'ils sont des témoins de leur temps, des témoins de l'époque que nous vivons. Avant de les retrouver dans le Vercors, donc encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Café Ampère de Grenoble. Alors, café, restaurant, La Bonheur. Ce soir, réunion à 18h30, autour d'un verre et d'un petit casse-croûte. Le thème de la soirée, ce sera la santé. Comment va votre santé, notre santé? Venez nombreux, donc 18h30, La Bonheur, Grenoble, avenue Alsace-Lorraine. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour Daniel. En ce moment, on parle beaucoup d'argent pour aider les gens à se loger. On ne trouve pas cet argent. On parle aussi que c'est de la faute à la mondialisation. Et je voudrais simplement rappeler, une petite annonce est passée, il me semble bien, le 23 décembre, donc juste avant toutes les fêtes. Et cette annonce disait qu'on va construire 6 nouveaux sous-marins nucléaires Barracuda, et ça pour une somme de 8 milliards. On les a, les 8 milliards d'euros, pour construire ces machins, mais par contre, pour loger les gens, bah, c'est difficile à trouver. Voilà, c'est Jean-Paul Dédon. Bonne journée, merci à tous, au revoir.
Bonjour à tous. Je souhaite une année fructueuse et une bonne santé à Daniel Mermet, Guy Vanquil, Christophe Imbert, et à toute l'équipe. Bravo pour le reportage à Dubaï. Très édifiant sur le genre humain, surtout pour ceux qui n'auraient pas encore compris que s'enrichir à ce point, c'est sacrifier la plus grande partie de l'humanité. Tous mes voeux aux fidèles amis de là-bas si j'y suis. Je souhaite à la Confédération paysanne d'être représentée en très grand nombre dans les chambres d'agriculture, afin que se développent de petites exploitations. et tous mes vœux aux faucheurs et aux chercheurs sur les plantes qui anti-OGM qui les soutiennent. C'était Ginette de Rouen. Au revoir.
Bonjour, nous organisons notre café repère de Combourg ce soir à 20h au bar Crêperie Moustache. Donc on vous attend tous. À ce soir.
Bonjour, alors voilà, quelques mots. Ménagère, travailleur pauvre, catégorie sociale, citoyen, droit au logement, lobby industriel, intérêt économique contre droit à la santé. Et j'en passe. Le tout dernier né, travailleur pauvre. Alors voilà. Monsieur Mermet, pourriez-vous demander ou voir s'il y a moyen de savoir avec Monsieur Villepin le statut du travailleur pauvre? Je travaille à mi-temps. J'aimerais savoir dans quel statut je rentre. Voilà. Et vite fait, droit au logement. Alors là, je souhaite bonne chance à ceux qui rentrent dans la catégorie logement 2012. Chapeau. Et on sent que les présidentielles arrivent, surtout. Voilà, c'était Cathy Niboulet-Creuse. Au revoir.
Voilà. J'ai juste précisé avec vous le cadre dans lequel on va travailler et ce que je souhaite que vous fassiez ou que vous ne fassiez absolument pas, d'accord?
Les consignes, quoi.
Voilà, les consignes de départ, c'est ça. Donc, le but, c'est que les gens ici suivent une formation à 100%, qui soit en aucune manière freinée dans la façon dont ils s'identifient à un rôle, qu'ils se mettent dans une personne, qu'ils fassent un jeu de rôle, etc. Donc, en gros, vous êtes là, bon, je ne peux rien y faire, vous êtes là. Mais si vous pouvez être invisible, c'est l'idéal. Et si à un moment donné, je vous demande, ou Hans vous demande, désolé, House. Mais allez sur le côté ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, respectez-le. Ce n'est pas que je manque de respect pour votre travail, mais c'est que mon travail, au moins, c'est qu'eux suivent une formation à 100% et qu'ils en retirent le maximum possible. Votre rôle, c'est d'être sur le côté qu'on ne vous voit pas, en gros.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis avec Guy Vanctil et Renaud Lambert. Action directe, non violente.
Flight number 2, arriving from...
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime.
Dans les actions, j'ai vu qu'à un moment donné, quand les CRS, ils sentent qu'il y a une bascule dans les ordres qu'ils ont reçus, de ce qu'ils doivent faire, et qu'ils sentent qu'à un moment donné, ils doivent avoir certains résultats, c'est-à-dire gagner 10 mètres, embarquer 10 personnes ou quelque chose, de toute manière, il faut qu'ils le fassent. Et tu sens qu'à ce moment-là, il y a un vrai durcissement de la part des forces de l'ordre, et ils embarquent. Ne discute pas, tu viens avec nous, allez. C'est comme ça, t'as dépêché tout le monde.
La non-violence, c'est... ce n'est pas simplement le fait de ne pas être violent, c'est le fait de résoudre les conflits d'une autre façon que par la violence.
Pourquoi je suis là? Parce que... Parce que je pense que c'est ma place d'être là, et j'ai décidé d'être citoyen comme ça, quoi. Quelqu'un par hasard sur l'autoroute en train de changer de radio tombe là-dessus, entend un morceau de l'émission et va dire mais qu'est-ce que c'est que ces bronques quoi.
Ok, on y va, c'était déjà. On a déjà fait ça.
Pardon. On va commencer. Alors, d'abord, merci d'être là, nombreux, d'avoir répondu à cet appel donc du manifeste des désobéissants et puis de la proposition de stage. L'idée, c'était de voir que l'action directe non violente en France, elle semblait renaître au travers évidemment des faucheurs volontaires et puis de quelques autres luttes anti-pub, pacifistes, etc. Mais que on n'était pas encore très nombreux à pratiquer ce genre de militantisme. Donc l'idée, c'est de former une sorte de vivier de militants de l'action directe non violente, un réseau informel, et puis dans lequel d'autres militants, d'autres associations pourront puiser. Ils pourront faire des propositions à notre réseau. J'ai envie d'aller d'organiser une opération anti-pub tel jour. Est-ce que ça vous intéresse? À ce moment-là, l'information circulera parmi nous. Et puis les gens qui sont d'accord avec cette cause et qui sont dispo à cette occasion, eh bien, ils auront qu'à répondre et puis aller sur cette action. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là et laisser maintenant la place au formateur. Je vais reprendre ma place de simple participant.
Vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri et vous avez donné raison à l'un des participants qui disait « Celui qui tombe par hasard sur cette émission doit penser qu'on est à moitié branque. » Alors, bien sûr, vous n'avez pas tort de sourire, ça va pas être le plus facile de sourire, tant ceux qui sont là sont des gens sérieux, sont des gens convaincus, sont des gens à conviction, vous avez compris. Il s'agit de militants, avec leurs convictions, qui font un stage dans le cadre de ce manifeste des désobéissants afin de pouvoir intervenir dans des opérations diverses et variées qui viennent d'être décrites, mais ceci dans un cadre non violent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On s'est demandé avec Guy et Renaud tout au long de ce reportage, est-ce qu'il s'agit de militants comme il y en a encore qui sont des dissidents un peu d'un mouvement comme Greenpeace et qui entendent être toujours présents, faire leur boulot de militants, presque pour pas dire des fonctionnaires, ce serait trop méchant, mais enfin qui ont ce rôle-là, qui ont cette fonction. Ou bien est-ce que, au contraire, dans notre pays, dans notre Europe tout entière, il y aurait un retour de l'engagement politique des militants qui essayent de changer ce monde, qui croient véritablement, qui croient, je dis bien, avec la conviction qu'un autre monde est possible. Alors c'est apparu dans les années 90, cette conviction. Et puis à l'avance, et puis elle recule, elle fait trois pas en avant, puis deux pas en arrière, à moins que ce soit l'inverse, à moins que... On sait pas très bien où on en est, on sent qu'il y a une force, on sent qu'il y a une conviction, et on a voulu en avoir le témoignage sans tirer trop de conclusions, mais avec beaucoup d'attention, tant il est vrai que notre histoire est faite de désobéissance. Désobéissance pas seulement sur un plan social par rapport à un ordre social, mais désobéissance par rapport à un ordre religieux, par rapport à un ordre intellectuel, voire même un ordre économique. Ce sont les désobéissants qui ont fait des brèches, des fractures, et qui ont fait entrer bien souvent des lumières dans nos sociétés et dans nos esprits. Et c'est... ces désobéissances, elles se sont exprimées de façon symbolique à travers, si on prend le pèlerinage, la procession, ça a donné la manifestation. Et la manifestation, c'est la banderole, c'est le porte-voix, c'est aussi d'autres formes, mais toutes symboliques d'expression d'une désobéissance, descendre dans la rue, marcher sur le pavé, battre le pavé, etc. Puis ça peut aller évidemment très loin, comme l'on sait, surtout dans un pays comme le nôtre, qui est un vieux pays de guerre civile, et qui de la barricade au cocktail Molotov a montré que il est un pays, et il est une culture, il est une histoire d'affrontement. On a bien sûr depuis 20 ou 30 ans dit que c'était fini, que l'histoire était finie. Vous vous souvenez, à la fin des années 80, on nous avait appris que l'histoire était terminée, et on a eu toute une série de penseurs, de médias qui les ont suivis pour nous dire que la page était tournée et que maintenant, eh bien, il y avait un ordre naturel de l'histoire qui était fini, qui était cet ordre des choses, qui n'était pas question, évidemment, plus question de remettre en cause et en doute, sauf que y a des évidences qui se sont peu à peu imposées à chacun dans la vie intime de chacun, qui a fait que il y a aujourd'hui cette contestation, cette volonté de changer les choses et cet ordre
du monde, on peut dire, qui est considéré intimement, personnellement, comme insupportable. Mais les répliques qui sont données, les réponses qui sont données, ça va depuis des petites réformes comme celle du citoyen, du consommateur citoyen, qui veut réduire le pouvoir au pouvoir d'achat, et qui veut dire un autre capitalisme est possible, en somme, aménager un peu ce capitalisme qu'on trouve un peu trop brutal. C'est une tendance très forte en ce moment. Et puis il y a à l'opposé ceux qui veulent absolument scier les colonnes du temple et changer véritablement, radicalement les choses. Mais on revient, je crois, à ces questionnements dans un monde évidemment bouleversé par rapport à au monde des années 70, je parle des lendemains de 68. Il y a eu un bouleversement, mais on voit bien qu'il y a une envie de renouer. Vous allez le voir dans ce reportage, pas seulement de renouer avec cette époque, mais de renouer avec une époque plus lointaine, puisque ce à quoi nous allons assister, l'endroit où nous allons, où nous sommes avec vous, c'est dans le Vercors. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, le manifeste des désobéissants, action directe, non violente.
Aliénation, privatisation, capitulation, quelle est la solution? Hey! Oh! Comment? Ton mégaphone! Pollution, suffocation, la corruption, mélanisation, ségrégation, désapprobation, pacification, préconisation.
Ok, on va s'y mettre. Hein. Je crois que la première chose à faire, c'est de se présenter. On va le faire de la manière suivante. C'est de raconter trois choses sur vous, mais de raconter deux qui sont vraies et une qui est fausse. D'accord?
Juan. Alors, je suis un dinosaure de Greenpeace. J'ai été bénévole dans les années 80 et quelques. Je suis un peu à l'initiative de certaines techniques de blocage. Et voilà. Et sinon, ben, je suis marié avec un top modèle.
Je m'appelle Christophe. Puis voilà quoi.
Donc moi c'est Romain. Moi je suis plus dans des collectifs anti-pub.
Stéphane, alors moi je suis bénévole à la VVF, je suis enseignant en zootechnique et je suis un passionné de sport automobile.
Donc Pierre-Marie, moi je reviens dans les activités parce que justement je suis au chômage. Et donc mon intention est de me rendre disponible si possible.
Jean-Charles Deslandes, moi je viens plutôt de l'antifascisme.
François, je viens de Bretagne, je suis militant à la mouvance pacifiste et écologiste et je suis ingénieur dans l'armement.
Alors Xavier, j'édite des jeux de société militants.
Moi c'est Nico, j'ai nettoyé la mairie de Neuilly au Karcher, j'ai jeté des pavés sur un CRS et j'ai ramené le porte-avions Clémenceau au ministère de la Défense.
Marie-Christine, je viens des Alpes-de-Haute-Provence, j'ai été élue verte, je suis faucheur volontaire et je suis à TAC aussi.
Ok, je suis Hans, à Belgique je travaille avec l'organisation Action pour la paix et avec la campagne Bombspotting. Je suis un coupé pour des Black Belges.
On a fait le tour de tout le monde. Merci pour la présentation. On a dit ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une formation à l'action directe non violente. Okay. On peut discuter pendant des jours, des semaines, des mois, des années, toute sa vie, d'un concept comme la non-violence, rester dans des cadres, des concepts tout à fait théoriques, sans traduire ça dans la pratique. Or, quand on prépare une action, et c'est quelque chose qu'on va encore faire dans la suite de la journée et demain, on va parler, on va s'exprimer, on va agir sur
un certain nombre de situations de confrontation qu'on peut rencontrer lors de nos actions. Mais comme c'est quelque chose qui va nous demander de bouger, de nous mettre dans la peau de personnage, etc., on va d'abord commencer pour ça. On va tout de suite bouger un petit peu. Tout le monde met sa veste au bras dehors et on n'en profite pas pour aller boire un café.
Petit à petit, nous sommes organisés. Et de tous les côtés, sur tous les chemins, sur toutes les routes, s'avançaient des hommes de toutes origines et qui se dirigeaient vers le maître.
La musique héroïque, la voix qui n'est pas moins, et le maquis. Et on est dans le Vercors. Est-ce que c'est un hasard si ce stage des obéissants a lieu dans le Vercors? On a envie de poser la question. Mais c'est vrai que ces mythes de la résistance, qui sont pas véritablement des mythes pour ce qui concerne cet endroit de la France. Il faut rappeler que la résistance s'est organisée dans le Vercors en 43, et c'est surtout en 44 que civils et militaires, souvent très jeunes, se sont rassemblés dans les massifs du Vercors jusqu'au combat de juin 44, où les unités allemandes se sont opposés à ce maquis, faisant de nombreuses victimes parmi les résistants et aussi parmi les civils. Et il y a eu des déportations, etc. C'est une des pages à la fois terribles et héroïques de notre pays, qu'on oublie tant. C'est histoire de résistance, des vieilles histoires, des vieilles mythologies, aujourd'hui dépassées par les victimes. On est encore dans la période des victimes. Victimes de ci, victimes de ça, concurrence victimaire, etc., dont on parle beaucoup et qui nourrissent le fameux communautarisme. Il semble qu'on revienne un peu à cet esprit de la résistance. En tous les cas, c'est l'ambiance dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, même si on n'est pas occupé par les nazis. C'est pas sans doute pas comparable. Comparaison n'est pas forcément raison, mais on est dans cet esprit-là. Avec, vous avez vu, voilà, cette nébuleuse écolo verte et européenne.
On n'a qu'à marcher tranquillement.
D'accord.
En plus, on a un panorama qui est vachement beau.
C'est super, mais j'en ai pas trop profité encore. Il faut que je sois sûr de bien l'imprimer dans ma tête avant de partir d'ici.
Parce qu'on est, en plus, c'est un lieu chargé d'histoire pour le coup. On est dans le plateau du Vercors, en plein milieu.
Ouais, au lieu de la résistance, on a traversé pas mal de villages avec des monuments aux fusillés. C'est vrai que c'est un peu le hasard si on se retrouve ici, mais le symbole est beau, ouais. C'est vrai que c'est une autre forme de résistance à une autre forme d'oppression, mais on est quand même dans cette logique-là, que d'un monde qui marche sur la tête et qu'on voudrait changer, bien sûr. Mais là, ce sera de manière non violente, et puis évidemment, on combat pas le nazisme. Mais bon, les ravages de l'économie de marché sont quand même pas mal, déjà.
Mais il y a l'idée de se placer dans une descendance, quoi. Dans une lignée.
Effectivement, le mouvement ouvrier, les luttes écologistes, les luttes pacifistes. Je veux dire, on est dans la continuité de 1000 luttes qui font avancer les choses, évidemment. Alors après, les formes changent ou se renouvellent ou reviennent, puisque la non-violence avait un petit peu disparu, la non-violence active, et participe d'une réémergence, parce que les faucheurs volontaires d'OGM ont évidemment remis ça sur le devant de l'actualité, donc on s'inscrit là-dedans. Mais c'est assez cohérent et convergent.
On rappelle que seuls les maïs avec le sac plastique, avec premier massif, sont les maïs transgéniques.
Un petit chacun, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Avec qui on est? Il y a tout un tas de voitures qui viennent de plein de départements français différents. Il y a des sacs de couchage et des gens qui les tiennent.
On est venu se former à l'action directe non violente dans le but de créer un vivier d'activistes
qui iront s'engager dans des luttes au gré des sollicitations, des luttes progressistes, des luttes donc écolo, pacifistes, sociales, parce qu'on a fait le constat que quand on veut sauver la planète de la pollution, généralement on veut aussi résoudre les problèmes de misère, résoudre les problèmes de manque de liberté, et donc les luttes antisécuritaires comme les luttes antimilitaristes ou comme les luttes sociales se rejoignent. C'est en fait l'altermondialisme, c'est un monde débarrassé de, enfin non marchandisé quoi, non réduit à l'état de marchandise.
Et ceux qui sont là, il y a des bleus ou c'est que des militants aguerris qu'on fait moult actions.
Alors il y a de tout, ça fait aussi la diversité et surtout la richesse de ce groupe. Il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais milité, qui ont simplement fait un cheminement intellectuel qui les a convaincus de vouloir défendre des choses, mais qui ne sont même pas engagés dans des mouvements. On a aussi des gens qui sont déjà des militants d'associations diverses, mais qui veulent passer à un degré supérieur d'implication en essayant la pratique de l'action directe non violente. Donc des gens qui étaient simplement militants pétitions, stands, manifs, et qui veulent maintenant faire de l'action de désobéissance civile, puisque c'est de ça qu'on parle. Et puis il y a là aussi des gens aguerris qui ont une expérience déjà longue de l'action directe non violente, des déboulonneurs de panneaux publicitaires, des pacifistes et antimilitaristes qui ont fait, on a vu hier des vidéos d'action contre le marché de l'armement Eurosatory et autres. Et puis on a des gens qui ont fait des actions écologistes.
Mesdames et messieurs, Fiat Industrie vous présente maintenant le fleuron de ses réalisations, le Charles Leclerc.
Il s'est rien passé de flagrant, parce que finalement...
En fait, il vous ignore, quoi.
Complètement.
Vous êtes rien du tout, quoi.
Rien, des gueux.
Des gueux?
Des gueux. Nous sommes des gueux.
Mais c'est normal aussi, vous venez contrevenir à l'ordre public.
Oui, l'ordre public, effectivement.
Parce que l'Eurosatory, c'est l'ordre public, quand même.
Je ne savais pas que la vente d'armes à la fois à l'Inde et au Pakistan, c'était de l'ordre public, en tout cas. Dassault a vendu des Mirages d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que, de toute manière, le but des ventes d'armes, c'est qu'elles soient utilisées. Sinon, on ne peut pas les remplacer.
Mais alors, à quoi ça va mener tout ça? Ça, c'est là, parce que là, il y a un côté jeu, il y a un côté ludique, on se fait des frissons, il y en a qui jouent la peau du policier, il y en a qui jouent le militant. Mais l'idée, c'est la manifestation, on passe un cran au-dessus.
Oui, bien sûr. Alors ça va aller dans le sens d'une mise en pratique. Le but est évidemment pas de rester dans la théorie et le virtuel. On va évidemment passer à l'action. Mon expérience militante et celle des copains qui sont ici nous a amené à penser qu'il y avait besoin, pour être efficace et pour gagner des victoires politiques, de développer plusieurs méthodes de militantisme. Si on restait strictement dans les règles que l'adversaire nous impose, à savoir la manifestation déclarée, bien gentille, la pétition qu'il parcourt d'un derrière distrait, comme disaient des proches, ça n'est pas complètement inutile, loin de là. Ça permet une sensibilisation, ça permet de mobiliser des gens qui étaient dans l'indifférence ou dans l'ignorance de certains enjeux. Mais à un moment, ça touche des limites. À moins d'un million de personnes, une manif a peu de sens et une pétition, on en a rarement vu d'efficace. Donc, il y a en revanche d'autres méthodes de militantisme qui sont dans l'action directe non violente, qui elles ont fait leur preuve dans certaines circonstances, pas tout le temps, contre les essais nucléaires, contre la pollution des mers ou des fleuves, dans certaines luttes sociales. Donc on est dans un mode d'action qui est complémentaire des autres modes d'action, qu'il ne s'agit pas de se substituer, mais qui peut avoir une efficacité importante à certains moments. Surtout, ça permet aussi de compenser le fait qu'on soit minoritaire. On peut être majoritaire au niveau de nos propositions, les OGM, les Français n'en veulent pas, le PR, les Français n'en veulent pas, sauf que le gouvernement l'impose. Et on n'est qu'une minorité pour l'instant à être prêt à aller plus loin pour empêcher ces choses-là. Et le côté action directe non violente, ça a une certaine dimension spectaculaire. Ça peut faire perdre beaucoup d'argent à l'adversaire et du coup ça peut compenser le fait qu'on soit pas des millions à se mobiliser.
Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme
et de sa femme.
Ensemble agissons dans le calme. Dignement, mais fermement,
mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche, alors. Oui, mais en fin d'après-midi. D'accord.
Et pourtant, quand vient le temps qui désespère de voir comment les choses vont, heureusement qu'il y a mieux à faire que de voter aux élections. Des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons. Des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons. Chacun dans son coin à sa manière, pour faire que la vie soit moins con.
Merci. C'était seulement un petit exercice pour donner, pour réchauffer un peu et donner l'expérience de jouer des jeux de rôle. Donc maintenant on va commencer un peu avec la partie sur la confrontation.
La confrontation. Nous y voilà. On est loin de du Valfouré, on est loin des 4000, des Minguettes et de Clichy-sous-Bois. On est dans le Vercors avec ces militants qui s'entraînent, ces désobéissants, disent-ils, qui se forment à l'action directe non violente et qui nous expliquent ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là et leurs convictions et leur parcours. On est passé, dit Annie Colleval. C'est une chercheuse, elle dit, on est passé du temps où aujourd'hui, le peuple n'est plus une cause à défendre, c'est un problème à résoudre. Le peuple n'est plus une cause à défendre, c'est un problème à résoudre. On pourrait dire ça de notre humanité, hein. On est des problèmes maintenant, on est des problèmes, les SDF sont des problèmes, les chômeurs, on est tous des problèmes. Eh bien, il faut, on attend, on espère que notre classe politique va résoudre comme un bon gestionnaire. Or, dans ce qu'on entend là, l'ambiance dans laquelle nous sommes, il y a la nostalgie quand même d'une humanité qui est une cause, d'un peuple qui était une cause, pas seulement la cause du peuple, je fais pas allusion à ce courant et encore moins à ce journal. Mais on voit que les choses sont allées vers le gestionnaire, vers la gestion froide et plus ou moins rationnelle des phénomènes, évidemment dans l'intérêt des patrons de ces gestionnaires. Et c'est ça qui est mis en cause là, c'est ça qui est en tâtonnant, peut-être pas évidemment en englobant, c'est très difficile d'englober tout ce que nous voulons tout. Il y avait un journal qui s'appelait comme ça, c'est que nous voulons tout. Nous ne sommes rien, soyons tout, disent les paroles de l'international. Mais c'est quoi tout aujourd'hui? Ce tout mondialisé, virtualisé. C'est très difficile à cerner. C'est ça que ce matin-là, sortant de leur duvet, ces militants embrasent et embrassent d'abord avant d'embraser.
Vous l'avez peut-être déjà vu lorsque vous participez à une action. Il peut arriver très bien que tout ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, en gros, ne veut pas que vous fassiez ce que vous avez l'intention de faire et qui a des objectifs tout à fait contraires aux vôtres. Et évidemment, la façon dont vous réagissez à cette confrontation, ça a une influence sur la façon dont cette relation va évoluer. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de vous faire intégrer cette dimension de comment réagir face à une confrontation? Eh bien, on va se mettre dans un certain nombre de situations de confrontation. Et vous demander de jouer ces situations avec un rôle très précis, qu'on va vous expliquer. On va se mettre d'abord, on va faire deux lignes, d'accord?
Voilà, tout le monde se met en atelier, c'est un superbe paysage vraiment du Vercors, avec on est sur le plateau avec des vallées autour, les rochers, des pins à perte de vue, il y a un peu de vent, on est à peu près 1000 mètres d'altitude et tout le monde est en train de se mettre en rang, face à face, pour la suite des exercices à l'action non violente.
Ce groupe-là, vous allez aller avec Hans, et il va vous expliquer quel est le rôle que vous allez jouer. Et vous autres, vous pouvez venir avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je trouve ma part, voilà.
le cadre de notre action, c'est la destruction d'un champ d'OGM. D'accord ? On va voir si vous pouvez jouer le gendarme agressif, ou le gendarme énervé. Parce que donc, il est 5h de l'après-midi, mais vous êtes là depuis 8h du matin. Donc c'est la fin d'une longue journée, il fait chaud, vous êtes resté toute la journée en plein soleil avec votre uniforme, votre truc un peu Robocop comme ça, avec votre casque, votre matraque, votre bouclier, enfin bref, c'était une journée de merde, une journée horrible.
Une journée de
peut-être. Il a fait chaud, ils ont passé, ces activistes ont passé toute la journée à se promener dans les alentours du champ de GM, à vous provoquer, tenter de rentrer, on rentre pas, on reste à l'extérieur, blablabla, enfin ils ont fait vraiment, ils vous ont emmerdé toute la journée. Vous savez que votre boulot, c'est d'arrêter les activistes. C'est la consigne que vous avez reçue. Vous devez les arrêter. Ça a suffi, ça a assez duré. Donc, vous pouvez aller au contact.
Donc, on les plaque au sol, on les menotte et,
J'ai dit les arrêter. Je dis pas les plaquer au sol.
On sait tout ce que ça veut dire être arrêté.
Tout dépend de la réaction qu'eux vont avoir en face, évidemment. Ok? Est-ce que tout le monde a bien compris son rôle? Tout le monde est dans son rôle? Ok? Ben, c'est à vous. Allez-y. Vous là,
vous êtes allez, ça suffit, allez, vous me suivez, allez, ça suffit, allez, à vous avancez. Allez,
il est pris par les bras, secoué, et l'autre traîne les pieds, mais le militant qui joue le policier est en train de traîner littéralement le militant qui joue le militant prêt à se faire embarquer. Et ça continue, et pendant l'autre côté, il y en a d'autres qui arrivent, ceux qui sont avec plus ou moins de bonne volonté.
C'est fini les conneries là, on arrête maintenant. Allez, venez avec moi, on continue là. Allez.
Mais attends,
Non, il n'y a pas de. Attends, Alban, on a passé la journée avec vous, les gauchos. On va vous mettre au frais. Non, t'accroches ici, là.
Mais ça te fait quoi de faire ça? On va
chercher tes copains, toi, tu restes ici. Allez.
C'était vite fait, rendement mené.
Ah, ça, c'est clair. Tu discutes pas, tu viens avec nous. Allez. T'es comme ça, t'as dépêché tout le monde.
Mais vous savez ce que c'est, les OGM?
On s'en branle, les OGM. Là, bien, on embarque.
Vous défendez quelque chose
dans les jambes.
Les plaques de
sol. Ça y est, on peut te reposer. On se fait trimballer. Ils t'ont roulé par terre. Ah, mais
ah ben ça fait quelques fois que je les fréquente. À Gênes, notamment.
À Gênes.
Les pires, c'est les Suisses allemands.
Ah bon?
Ah, c'est les pires.
En face de votre partenaire de ce jeu de rôle spécifique.
Et en face, on t'a dit. On va le répéter ou pas après?
Pour sortir de votre rôle, essayez de discuter pendant une minute avec votre partenaire. Sur quel était son rôle, quel était votre rôle, comment vous l'avez ressenti, comment ça s'est passé.
Dialoguer, ne pas chercher à forcer le passage, mais expliquer notre combat, expliquer le problème de GM, enfin beaucoup dialoguer quoi.
Ah ouais. Bah nous on était là depuis le matin, on était bien énervés, et en fait on avait hâte de vous arrêter, de tout arrêter. Ouais.
On a bien compris, ouais.
Bah non, moi j'étais censée discuter avec toi en fait, essayer de te raisonner, voir.
Moi les autres ils diraient quoi, arrêtez la personne, mais du coup voilà, moi c'est les autres.
J'avais même pas encore fait mine de mettre le pied dans le champ quoi.
T'as secoué un peu ou
Ah bah oui, je me suis vite retrouvée par terre, je l'ai pas vu venir en plus, ça a été rapide.
Je suis fort.
Vous aussi vous y avez fait face aux gendarmes en vrai?
Oui, et notamment pour aller faucher un champ d'OGM, et il y avait ils étaient nettement plus nombreux que nous, et comme ça, immobiles. On dit que peut-être ils vont écouter quelque chose. Ouais, fais bien le gendarme. Alors, le groupe qui était avec moi tout à l'heure, bon, on va se redescendre là-bas. L'autre groupe retourne avec Hans dans les hauteurs. Et on va voir une autre situation, d'accord?
Très bien.
Voilà, là on est dehors, devant la salle où a lieu la formation, il fait un peu froid, on commence à grelotter, mais toi t'es l'un des deux formateurs qui a dispensé la formation aujourd'hui, et tu viens de Belgique.
De Belgique, oui.
Et tu fais partie d'une organisation qui s'appelle Bomb Spotting.
C'est ça, oui. Bomb Spotting, c'est une campagne d'action, de sensibilisation et de pression politique, centré sur le désarmement nucléaire total, en commençant par la Belgique, évidemment.
Et donc, Bomb Spotting est financé comment?
Est financé en partie par un subside du ministère de la Culture de la communauté flamande en Belgique, dans le cadre de subventions accordées au mouvement d'éducation socio-culturelle pour adultes.
Dans les campagnes qui sont menées et dont parlent les gens pendant le stage, on entend parler d'OGM, on entend parler de 4x4, on entend parler de désarmement, de nucléaire. On n'a pas encore entendu beaucoup parler de questions plus sociales.
Je crois que c'est principalement, enfin, d'abord une question de public. Une bonne partie des gens qui sont là, et aussi d'ailleurs qui participent à ce type d'action, c'est un un public particulier. C'est beaucoup des pas le cacher, ils ont un milieu assez aisé pour beaucoup, des étudiants, des gens qui ont un parcours intellectuel d'une certaine portée. Mais c'est un milieu relativement aisé.
Classe moyenne.
Oui, et socialement conscient, on va dire ça comme ça. Et ce ne sont pas, en effet, des ouvriers, des gens des cités. Enfin, ce n'est pas ce type de public-là. Ce qui ne veut pas dire que ce que nous, on appelle action directe non violente, est quelque chose qui ne se pratique pas dans d'autres milieux. La seule chose, selon moi, la seule différence, c'est qu'on ne lui donne pas ce nom-là. Quand des salariés ou des ouvriers bloquent leur outil de travail, font un piquet de grève devant le retrait de leur entreprise pour empêcher que le matériel qui a été fabriqués puissent sortir pour empêcher le travail, etc. C'est aussi, dans une certaine mesure évidemment, c'est aussi de l'action directe non violente. C'est intervenir pour mettre un grain de sable dans la machine. C'est exactement la même chose.
Du nouveau à Besançon, les ouvriers de chez Lip ont décidé de prendre leur avenir en main. Ils vont fabriquer des montres avec les pièces qui sont encore en magasin dans l'usine. Ils comptent pouvoir en fabriquer 32 000 environ aujourd'hui, qu'ils veulent ensuite commercialiser grâce à un réseau monté par eux-mêmes. Et Bernard Delcroix a pu obtenir quelques précisions auprès d'un responsable.
Que comptez-vous faire des montres que vous avez construites ?
Ben, disons que c'est une marchandise qui nous reste comme point d'appui pour nos revendications. C'est tout ce que je peux...
Le rêve est devenu réalité. Le rêve est devenu réalité. C'était en 1973, à la une du quotidien Libération, au sujet des luttes des LIP. Et les LIP, vous vous souvenez, c'était à Besançon, c'est ces travailleurs de cette usine qui fabriquait des montres, qui avaient pris l'autogestion, si on peut dire, de leur entreprise, avec le slogan fameux « C'est possible, on fabrique, on vend et on se paye ». Et cette lutte a marqué au fond la fin des Trente Glorieuses et de ce type de conflit, en même temps ouvrait, marquait le début de cette désindustrialisation que notre pays, entre autres pays européens, a connu. Là, on a compris qu'on est avec des militants de classe moyenne, et il y a toujours eu cette différence entre les verts et les rouges. Hein, les rouges, disons plutôt LIP. Et les verts, eh bien, qui se soucient d'environnement. Quelqu'un disait « jamais vert sans rouge ». Je crois que c'est René Dumont qui disait ça. Mais on reparle de tout ça parce que ces luttes et ces questions reviennent ici avec cette formation à la suite à ce manifeste et des obéissants, cette formation à l'action directe non violente. Bien évidemment que je suppose que tous ceux qui sont dans les renseignements généraux, qui sont dans les forces de l'ordre, qui écoutent cette émission doivent se frotter les mains en disant voilà des braves petits gars qui qui nous assurent du boulot pour aujourd'hui et un avenir, même si aujourd'hui, comme dans ces époques que j'évoque, les manifestants criaient très souvent à l'adresse des forces de l'ordre et des CRS notamment, je me souviens de l'avoir moi-même entonné, CRS, c'est pour vos enfants que nous nous battons.
Je m'appelle Christophe.
Christophe.
Je viens de Paris, je suis bénévole à Greenpeace depuis quelques années.
Tu es à quel âge d'ailleurs ?
Bientôt 30.
Tu bosses
Oui, je travaille dans la finance, informatique de gestion, banque, assurance.
Ah oui !
Voilà, ouais. Ouais. Donc je travaille depuis 8 ans et donc en ce moment c'est vraiment la démarche de me sortir de ça, de réfléchir un peu à comment faire et puis... rentrer en cohérence un peu avec tout ce que je découvre et tout ce que je veux accomplir.
Mais c'est des grosses banques, c'est des grosses boîtes ?
Oui, oui, oui. Oui, les plus grosses, hein, dans la banque ou l'assurance.
Et donc tu bosses en costard et tout ça ?
Oui.
Un vrai col blanc, quoi.
Voilà, avec la cravate et tout.
Et j'imagine que le salaire doit aller avec ?
Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu l'avantage, en fait, pour bien me rentrer dans le côté militant, c'est que ça me permet déjà de financer un peu mes voyages, de ne pas travailler tout le temps non plus, et puis de prendre des jours sans solde, des choses comme ça, quoi.
Mais alors, j'ai toujours pas compris pourquoi t'étais pas un cadre supérieur épanoui. Vraiment, c'est ceux qui réussissent, quand même, qui bossent dans la finance et dans la banque, quoi.
Oui, voilà.
C'est le modèle de réussite qui prévaut.
C'est le symbole de réussite sociale, c'est ça, de gagner de l'argent, tout ça, mais je saurais pas trop comment dire. Ce que je vois, c'est que avant, je me contentais de vivre pleinement la vie telle que je l'attendais, donc d'avoir de l'argent, de pouvoir consommer ce qu'on veut, d'obéir un petit peu au canon, je dirais, de la consommation actuelle. Je suis passionné d'informatique, je joue beaucoup aux jeux vidéo,
console,
et d'avoir des choses, que c'est pas ça en fait qui apporte l'épanouissement personnel. Je me suis rendu compte que voilà, ce que je recherchais, c'était le contact avec les amis, c'était de pouvoir m'amuser, c'était toutes ces choses là Donc là, j'imagine, par exemple, donc lâcher mon boulot, essayer de trouver quelque chose dans la militance.
Ah ouais.
Et oui,
quitter la banque. Possible.
Oui, bien sûr. Ce temps que je passais au boulot, je ne passais pas à vivre pleinement ma vie.
Et mais tu pourrais aussi bien jouer au golf plutôt qu'être avec des militants altères.
Oui, mais justement, c'est de me rendre compte que la société telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, de voir aussi non seulement ma position personnelle, mais aussi de voir un peu le malheur qu'il y a autour de moi, de voir quels sont les points communs et d'où viennent tous ces points communs. Et donc, j'en suis arrivé à une espèce de critique du capitalisme. Et là, ça va être peut-être...
Alors que travaillant dans la banque, t'étais pas du tout parti de ce terrain-là.
Non, en fait, je suis arrivé dans la banque parce que j'aimais l'informatique. L'informatique, ça marche pour la comptabilité, mais ça marche aussi, pour la militance, pour la transmission d'informations, pour des choses comme ça. Je suis en fait de plus en plus radical un peu dans les idées, contrairement justement à des amis qui étaient lancés dans la politique avant moi, justement chez les Verts ou autres, qui eux justement m'avaient dit exactement le contraire, c'est que le parcours normal d'un militant politique, c'est plutôt être complètement radical sur des choses, et au fur et à mesure qu'on rentre dans peut-être dans le système politique, ou qu'on avance dans la vie, ou simplement d'avoir simplement à se nourrir le lendemain, eh bien on commence à se ranger parce que bon c'est bien, mais alors que moi c'est vraiment, je me rends compte que j'ai le discours complètement inverse. Autant je dirais, moi quand j'étais au lycée, que je me posais un peu la question pour quel parti je pourrais voter ou tout ça, j'avais plutôt des choses plutôt de sensibilité de droite. Donc oui, j'ai déjà voté pour la droite, et donc au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça passait de plus en plus vers un peu l'anarchisme, l'extrême gauche, sur pas mal de points.
Et tes collègues de bureau dans la banque, ils sont au courant de tes opinions? Ils savent ce que tu fais en dehors du bureau?
En fait, déjà, j'en parle pas avec n'importe qui. Donc, c'est déjà avec des gens avec qui je sais que je peux déjà en discuter plus facilement. Quand on commence à discuter de ces choses-là, on est très vite catalogué environnementaliste ou vert ou autre, parce que on n'a peut-être pas un discours très clair, ou les gens ont des idées très très arrêtées sur ce genre de choses. Or aujourd'hui, là, on parlait des fêtes de Noël de fin d'année. J'aurais dit moi je vais pas en vacances, ou je fais pas de fête de Noël parce que ça m'intéresse pas. Par contre, je pars quand même dans le Vercors ce week-end pour faire une formation à l'activisme environnemental.
Ils te regardent comment dans ce cas-là?
Ils sont curieux. Il n'y a pas justement, il y a peut-être le côté doudingue, mais ça, ils ne le montrent pas. Et le plus marrant, c'est justement, j'ai discuté donc avec un collègue d'AXA sur un petit peu ma démarche justement.
AXA Assurance?
Oui, AXA Assurance. Et là, c'était encore hier, me demander qui nous donnera des cours ou un truc comme ça, quoi.
Mais alors, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pas?
Et aujourd'hui, justement, je sais pas. Donc, typiquement, cette formation-là, c'est de voir un peu comment pensent les gens, comment moi je pense, et voir un peu les limites de tout ça, de tout partager, et de chercher un peu ce que je ferais demain. Mais aujourd'hui, j'ai pas de chemin tracé, j'ai pas d'idéal. Tout ce que je peux dire ou penser, ce serait pour continuer à tracer ma route, tout simplement.
Et pendant ce temps-là, à côté, ils sont tout en train de se... d'apprendre à comment s'enchaîner. Il y a un atelier où tout le monde a sorti, ils ont sorti des espèces de U et des tuyaux pour voir comment se bloquer. Alors on va voir comment ils font, parce que ça peut toujours te servir, non?
Oui, oui.
T'es déjà enchaîné ou pas?
Non, jamais en fait. Et justement, j'ai découvert les systèmes là aujourd'hui avec Juan. On était venus en voiture hier soir ensemble.
On se le passe dans la grille derrière. Voilà, pendant ce temps-là, c'est le cours sur comment se mettre un antivol autour du cou pour s'enchaîner.
Et on se ferme ici.
Et on avale la clé.
La clé, pensez toujours. Il faut que quelqu'un d'autre ait une clé, parce que ça peut vous arriver de perdre la clé, là, vous êtes comme un con. Ça, c'est la position la plus difficile, parce que ils essayent de nous faire sauter la tête. Enfin, de nous passer la tête. Alors, je vous montrerai une vidéo, peut-être tout à l'heure, sur une action où ils ont vraiment essayé de force à ce qu'on passe la tête. Ça en passe un très mauvais moment. Surtout s'il y a des caméras devant, en plus, c'est très douloureux.
Après, ah, mais c'est bon, ça, s'il y a des caméras et qu'ils sont en train de te voir souffrir.
C'est bon, on veut des martyrs, mais jusqu'à un certain point.
Bah oui, justement.
C'est des chaïdes.
Tant que la tête, elle se décolle pas, c'est bon.
Tant que la tête tient, ça arrive avec des grandes pinces hydrauliques. Ça boit de l'acier trempé, ils arrivent à le péter. Alors quand ils arrivent avec la pince et qu'ils vous foutent la pince là, c'est aussi très traumatisant. C'est un seul mauvais moment. Sur certaines actions, ils ont quand même pas hésité à y aller au chalumeau. Tu peux rien faire là-dessus, quoi.
Dans quelle mesure ils ont le droit de tirer dans tous les sens,
Ils ont la loi pour eux.
Ouais, mais n'hésitez pas à crier, ça fait un bon
effet. On peut se détendre.
Après, c'est une discussion à avoir. Combien de temps on doit tenir? À mon avis, on peut pas tenir des journées. S'ils sont décidés à y aller, ils y arrivent, ils prendront le temps. Mais on peut retarder énormément. Mais il faut pas se dire qu'on restera bloqué, on va pas faire une grève de la faim devant un lieu en se coinçant pendant des heures.
C'est difficile. Les joueurs à l'usure, ils ont déjà tenté.
Oui, ben très souvent, nous, au bout d'un moment, on se dit putain, que fait la police quand c'est une soirée. T'en as marre, tu vois, parce que quand t'es sous la pluie à coincer, t'en as plein. Et au bout d'un moment, tu dis bon, mais ça va. Il y a les photos, les médias. Puis les médias style. Au bout d'un moment, toi, ils ont pris leurs photos. Je suis désolé, mais les médias, mais bon, ils ont pris leurs photos. Ils sont contents. La nuit tombe, t'es comme un con. Tu dis qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Tu vois, au bout d'un moment. Après, ça, c'est des décisions qui se font en groupe, qui se font de discussion avant combien on doit tenir. Si on doit tenir 3 jours, 2 jours ou 2 heures. Quoi. Ça, c'est important de discuter avant.
Vous maintiendront jusqu'à demain, donc Renaud Lambert et Guy Vanquetil, vous avez compris, sont enchaînés quelque part dans le Vercors. On les retrouvera peut-être demain à 15h dans la Pacifique. Merci à tous. Merci aux techniciens aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont, Yann Chouquet et Raphaël Moutère dont réalisé cette émission, ainsi que de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert, qui auprès du répondeur attend vos remarques au 01 56 40 37 37. Remarques, coup de gueule, coup de cœur. Et ainsi que sur le mail de la base, si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.